Chapitre 75. Je suis un promeneur. Je suis atteint du syndrome de l'autre rive. Aujourd'hui, on a enterré Pierre-Georges, 1934-2017. Sa petite fille avait peint le cercueil. Des dessins d'une naïveté bouleversante. Elle avait passé 3 jours à dessiner une campagne et du ciel bleu sur le bois brut. Sans doute en pensant que son grand-père s'y promènerait dans l'au-delà. Pierre s'appelait Élie Barou, comme le chanteur. Mais avant la guerre, ses parents, enterrés tous deux à Brancion, avaient dû changer son prénom et son nom. Une femme rabbin est venue de Paris pour lui rendre un dernier hommage. Elle est la 3e femme rabbin de France. Elle a chanté ses prières, c'était très beau. Elle a récité le kaddish quand le cercueil a été descendu dans le caveau familial où reposent depuis des décennies les parents de Pierre. Ensuite, chacun a jeté un peu de sable sur le cercueil. Après la campagne et le ciel bleu, en lançant du sable blanc, la famille et les amis de Pierre lui ont aussi offert un bord de mer. Comme ce n'était pas son Dieu qui était convoqué, le père Cédric est resté dans ma cuisine pendant la cérémonie. On dit qu'un homme a la famille qu'il mérite. Avoir autour de la tombe de Pierre ses enfants et petits-enfants, tous unis autour du même au revoir, je me suis dit que Pierre devait être une belle personne. Après, un verre était organisé dans la petite salle des fêtes de la mairie. La famille et les amis de Pierre s'y sont rassemblés pour lui chanter des chansons. Les portes étaient ouvertes. Et depuis chez moi, j'ai entendu des voix et de la musique. La femme rabbin, qui se prénomme Delphine, est venue boire un café à la maison. Cédric était toujours là. L'homme d'église et la femme de synagogue étaient beaux à voir, ensemble, dans ma cuisine. Ils ont mélangé leur foi, leur rire et leur jeunesse. J'ai pensé que Sacha aurait adoré cela. Comme il faisait beau, je suis allée travailler au jardin. Delphine et Cédric se sont installés sous ma tonnelle et sont restés plus de 2 heures à parler et rire encore. Delphine a paru fascinée par la beauté de mes plants et de mes arbres fruitiers. Cédric lui en a fait faire le tour comme s'il en était l'heureux propriétaire. Comme si c'était son Dieu à lui, dont la maison se trouvait à proximité, qui avait provoqué tous ces petits miracles. En plantant mes aubergines, j'ai entendu une des chansons que la famille et les amis de Pierre-Georges chantaient sur la place de la mairie. Ils avaient dû quitter la salle des fêtes pour s'installer sous les arbres. Même Delphine et Cédric se sont tus pour l'écouter. Non, je n'ai plus le goût de me flatter moi-même en cherchant ardemment l'écho de mon « je t'aime ». Non, je n'ai plus le cœur à déchirer mon cœur en parodiant des jeux que je connais par cœur. Toi qui m'offres aujourd'hui le plus beau des spectacles. Avec tant de beauté, tu pouvais faire obstacle. Mais je ne vois plus rien de tout son beau mystère. J'ai peur qu'il ne soit rien que je craigne ou espère. Car malgré tout le rêve en mon âme enfermée, je n'aurai plus jamais le courage d'aimer. Penchée sur ma terre, je me suis demandé si c'était pour Pierre ou pour moi qu'il la chantait. Vers 18h30, tout le monde est remonté dans sa voiture, direction Paris. Une fois de plus, j'ai entendu ce bruit que je déteste tant, celui des portières qui claquent. Mes 3 hommes ont dîné avec moi, dehors. Je leur ai fait une salade improvisée, des pommes de terre sautées et des œufs au plat. Nous nous sommes régalés. Les chats nous ont rejoints, comme pour écouter nos conversations décousues, inintéressantes, mais heureuses. Nono a répété pendant tout le dîner « On n'est pas bien là, chez notre Violette !» Et nous, en chœur, on lui a répondu « Tellement bien !» Et Elvis a ajouté « Don't leave me now !» Ils sont repartis vers 21h30. Les jours sont les plus longs en ce mois de juin. Je suis restée assise dans le jardin, sur un banc, pour écouter le silence. Écouter tout ce bruit que Léonine ne fera plus jamais. Excepté une petite mélodie d'amour dans mon cœur dont moi seul connais l'air. Je repense à Nathan sur la banquette arrière, à notre retour dimanche matin tous les 3 en voiture. Notre gueule de bois à Julien et moi, taillée dans une brindille, du bois vert, une jeune pousse, une feuille de rien du tout qui dépasse à peine de la terre, deux ou trois racines qui s'apparentent à des fils si faciles à retirer. Un début d'amour enfantin à déraciner, trois petits tours et puis s'en vont. Dans les cheveux de Nathan, le gel avait formé des plaques blanches, un peu comme de la neige. Julien lui a dit qu'en arrivant à Marseille, il faudrait qu'il se lave les cheveux plusieurs fois avant de retourner chez sa mère. Nathan a fait une grimace en cherchant mon regard pour que je lui vienne en aide. Ils m'ont déposé devant chez moi, devant la porte côté rue. Ils allaient repartir, mais Nathan a voulu voir les animaux. Florence et Maïwet sont venus se frotter contre ses petites jambes. Nathan les a longuement caressés. Il m'a dit « T'as combien de chats en vrai ?» Pour l'instant, 11. J'ai récité leurs prénoms. On aurait dit un poème de Prévert. Il a ri aux éclats. On a rempli les gamelles de croquettes, jeté les vieilles aux oiseaux. On leur a remis de l'eau fraîche. Pendant ce temps, Julien est allé sur la tombe de Gabriel pour voir l'urne de sa mère. Quand il est revenu, Nathan l'a supplié de rester encore un peu. Et moi, j'ai eu envie de supplier son père qu'il reste encore beaucoup. Mais je n'ai rien dit. Ils ont pris un goûter dans mon jardin et sont repartis. Je les ai raccompagnés. Avant de monter en voiture, Julien a essayé de m'embrasser sur la bouche. J'ai reculé. Je n'avais pas envie d'un baiser devant Nathan. Nathan a voulu monter devant. Son père lui a dit « Non, quand tu auras 10 ans ». Nathan a râlé, puis il a déposé un baiser sur ma joue. « Au revoir, Violette ». J'ai eu une furieuse envie de pleurer. En claquant, leurs portières ont fait plus de bruit que les autres. Pourtant, j'ai fait comme si ça m'était égal qu'ils repartent, comme si j'étais soulagée, comme si j'avais 1000 choses à faire. Après avoir repensé à tout cela sur mon banc, je rentre à la maison et je ferme les deux portes, côté rue et côté cimetière. Eliane me suit jusqu'à ma chambre et s'étend de tout son long au pied du lit. J'ouvre les fenêtres pour que la douceur du soir pénètre à l'intérieur. J'applique mon soin à la rose, j'ouvre le tiroir de ma table de nuit et me replonge dans le journal d'Irène. Avant de parcourir ses pages d'écriture, je me dis qu'elle a connu son petit-fils quelques années. Je me demande quel genre de grand-mère elle était. Comment elle a accueilli la naissance de Nathan? Je calcule qu'il est né 1 an après la mort de Gabriel. L'amour d'Irène et Gabriel me rappelle le jeu du pendu où il faut deviner un nom. Et je n'ai pas encore trouvé celui qui le définit. En pénétrant chez moi, Julien est entré avec sa mère et Gabriel. Comment nos rencontres se termineront-elles ?